Isabelle m'a taquinée la dernière fois qu'elle m'a rencontrée en me disant « Mais comment tu vas justifier de parler de Madame de Genlis Aspin entre un cycle sur les romans populaires et un cycle, comme je vous l'ai déjà annoncé, sur les anarchistes et les libertaires ?» Bon, alors justification, on y va Isabelle. Alors justification, les cinq bonnes raisons. La cinquième. Alors celle-ci, elle est complètement caduque. Au moment où j'ai préparé le programme, j'imaginais que le 20 juin, il ferait très beau et que donc nous pourrions nous rafraîchir à la veille de l'été en allant à Spa, ville dont vous n'ignorez pas qu'elle a donné son nom au Spa, justement, et je trouvais ça formidable. Donc cette raison est un peu caduque. La raison numéro 4. Isabelle, je vous l'ai dit, est ingénieure de recherche au CNRS. Elle travaille plus spécialement sur la bibliographie de l'histoire de France, sujet, il faut bien le dire, aride, Isabelle, et je trouve formidable qu'Isabelle garde la passion pour la recherche tout en faisant ce travail-là. Donc je voulais montrer un exemple de personne qui à la fois aide les chercheurs, mais pour autant fait elle-même de la recherche. Je vais peut-être vous demander si c'est possible de fermer la fenêtre, parce que je pense qu'on va peut-être avoir du mal à s'entendre, il y a beaucoup de passages. Alors, raison numéro 3. Parce que parmi les mérites de Madame de Genlis, malgré tout le mal qu'on peut en dire de cette fameuse Madame de Genlis, c'est une femme, et une femme qui s'impose au 18e et au 19e siècle, et je trouve ça absolument formidable. Elle s'impose en tant qu'auteur, elle s'impose en tant qu'amoureuse, elle s'impose à toutes sortes de titres au 18e, et je trouve ça, mais vraiment, c'est bien. Alors Isabelle, je pense que tu vas nous expliquer tout ça.
On va se rejoindre dans ton explication.
Voilà. Oui. C'est bon. Vraiment, c'est une bonne raison. La raison, donc, numéro 2, parce que ses écrits ont été vilipendés par les tenants de l'instruction populaire. Là, on revient vraiment à nos moutons. C'est-à-dire qu'ici, Madame de Genlis, c'est quelqu'un d'un peu sulfureux. Pourquoi ? Parce que Madame de Genlis... Ses écrits sont catholiques, elle prône un certain type d'instruction, tu vas nous en parler, et vu par la lorgnette de nos ouvriers et de nos tenants d'une instruction populaire au 19e siècle, Madame de Genlis, non, il ne faut pas la lire. Alors je vais vous citer quand même un exemple. Nous n'avons pas raconté ces interminables démêlés avec la plupart des gens de lettres de l'époque et surtout avec ceux du parti philosophique. Il suffira de rappeler que son ardeur à combattre les disciples de Voltaire lui mérita le surnom de mère de l'Église que lui donna M. Chénier. En dépit des épigrammes, la plume infatigable de Madame de Genlis continua pendant 30 ans encore à entasser volume sur volume, romans, pièces de théâtre, ouvrages d'éducation, mémoires, pamphlets, etc. Elle alla jusqu'à refaire l'Émile de Rousseau et le siècle de Louis XIV de Voltaire. Lorsqu'elle mourut en 1830, plus qu'octogénaire, elle n'avait pas publié moins de 80 ouvrages. De tant d'œuvres diverses, il n'en est pas une qui ait mérité de lui survivre. Désolée Isabelle. N'ayant que de la facilité, sans savoir sérieux et sans solidité dans la pensée, Madame de Genlis ne s'est jamais élevée au-dessus du médiocre. On trouve chez elle des inventions bizarres, de l'esprit quelquefois, le plus souvent des redites banales, un babil frivole et un commérage vaniteux. Outre les ouvrages dont nous avons mentionné les titres, on peut citer encore les suivants parmi ses publications relatives à l'éducation. Discours sur la suppression des couvents de religieuses et sur l'éducation publique des femmes. Discours sur l'éducation de Monsieur le Dauphin, j'en passe. Un projet d'une école rurale pour l'éducation des filles. Les Dimanches au Journal de la Jeunesse, n'apparu que pendant un an, 1816. Ce dernier recueil a été l'objet d'une critique sévère dans le journal de la Société pour l'instruction élémentaire. Voilà, et c'est signé Monsieur Buisson dans son dictionnaire sur la pédagogie, que vous connaissez sans doute, hein, parce que c'est le fondateur du mot laïcité. Et c'est également un des fervents soutiens de la Ligue des droits de l'homme. Donc voilà ce que M. Buisson en pensait au milieu du XIXe siècle de Madame de Genlis, et je pourrais citer d'autres exemples. Pour autant, raison numéro 1, Isabelle, il y a de nombreux chercheurs qui disent actuellement qu'il y a des choses très intéressantes chez Madame de Genlis, dans sa pédagogie, etc. Et c'est à toi de nous les faire découvrir ce soir pour que, eh bien ici, les amis de l'instruction, enfin, aiment Madame de Genlis.
Aiment ou continuent à la trouver sulfureuse. Mais en tout cas, j'ai posé la question de savoir s'il y avait des livres de Madame de Genlis ici. Nous n'en avons pas trouvé dans le catalogue et donc, il n'y a pas de hasard.
Je confirme pour avoir étudié d'autres catalogues. Alors on en trouve dans des catalogues de bibliothèques populaires justement chrétiennes.
Oui, ah oui.
L'obédience chrétienne. Mais par contre, dans la nôtre, non, pas la même de Jean-Lys.
Oui. Voilà, alors je vais parler de Madame de Genlis en 1787, lorsqu'elle est allée à Spa avec les enfants de la famille d'Orléans, le duc et la duchesse. Et je vais commencer par dire que Madame de Genlis était une grande voyageuse, une très grande voyageuse. N'écrit-elle pas en 1786, dans une lettre destinée à son ami Bernardin de Saint-Pierre, « Je suis la femme de la société qui a le plus voyagé, quoique cependant je ne sois pas sortie de l'Europe. » Cette voyageuse ne pouvait manquer de passer par Spa, petite ville thermale ardennaise, qui devient au XVIIIe siècle l'un des lieux de rencontre de toutes les noblesses européennes, un des lieux à la mode. Elle s'y était rendue une première fois en 1775. Ce premier séjour, plutôt discret et qu'elle fait seule, a fait couler beaucoup d'encre, suscitant questionnements et rumeurs, largement relayées par la presse de l'époque. En 1772, en effet, elle avait été nommée dame de compagnie de la duchesse de Chartres, qui deviendra duchesse d'Orléans en 1785, duc de Chartres puis duc d'Orléans en 1785. Elle était aussitôt devenue la maîtresse du duc de Chartres, de qui elle aurait eu deux filles. Le voyage de Spa de 1775 aurait pu masquer la naissance de leur deuxième enfant, Hermine. Ce secret savamment entretenu et jamais révélé par les deux protagonistes a alimenté un nombre élevé d'ouvrages à sensation et nourrit toujours une rumeur sur laquelle les historiens s'interrogent encore aujourd'hui. Donc ça, c'était 75. En 1787, la position de la comtesse, devenue depuis peu marquise de Sillery grâce à un héritage de son mari, est tout autre et le voyage est très brillant. Et il restera gravé, d'ailleurs, au sens propre comme au sens figuré, dans la mémoire spadoise. Cette année-là, Madame de Genlis est au sommet de son empire pédagogique. Depuis 5 ans, elle est parvenue à se faire nommer gouverneur des enfants d'Orléans. Des deux filles, Adélaïde et sa jumelle, qui mourra de la rougeole à 4 ans, mais aussi des 3 garçons, Louis-Philippe, duc de Chartres, qui deviendra roi des Français en 1830, d'Antoine, duc de Montpensier, et de Louis, duc de Beaujolais. Cette nomination, pour le moins surprenante, avait été voulue par le duc d'Orléans, libéral, animé d'une volonté manifeste de provocation et de non-conformisme, et de la manie de se faire ce qui ne s'était jamais fait. Nommer une femme gouverneur de ses fils, c'était de cette catégorie-là. Elle avait fait, lors de son annonce, sa nomination avait fait l'effet d'un coup de théâtre. Madame de Genlis, disons-le, jouissait aussi de l'entière confiance de la duchesse, qui ne se rendait compte de rien. Donc, de 1782 à 1791, l'éducation habituelle se tient à Paris au pavillon de Bellechasse, construit spécialement pour cette éducation princière. Les garçons s'y rendent tous les jours depuis le Palais Royal, où ils retournent en fin de journée. Madame de Genlis y vit notamment avec la princesse Adélaïde, ses 2 propres filles, une nièce et 2 orphelines anglaises qu'elle a adoptées, Pamela et Hermine, en qui la rumeur voit les filles qu'elle aurait eues avec le duc d'Orléans, père de Louis-Philippe. Une bonne partie de ce petit monde l'accompagnera à Spa. Ils y seront rejoints par le duc et la duchesse, devenus d'Orléans, comme je vous disais, depuis 1785, après la mort du duc d'Orléans, père. Voilà, où on voit un tableau de famille des 4 enfants d'Orléans, le duc, la duchesse et Madame de Genlis. Et ceci, c'est un tableau de Henri-Félix-Emmanuel Philippoteau et d'Eugène Leguet, qui date, avec un point d'interrogation, de 1822. C'est une gravure sur papier. Ce voyage à Spa, qui est connu, peut être relu à partir de différents journaux d'éducation dirigés par Madame de Genlis. La rédaction des journaux est en effet un élément déterminant de sa pédagogie. Elle en tient elle-même, elle en fait tenir par ses élèves, mais aussi par les personnes qu'elle a sous ses ordres. L'ensemble constitue un système de surveillance que Philippe le Jeune, le spécialiste de l'autobiographie, dans une étude encore inédite, est tenté de comparer au fameux panoptique imaginé par Jeremy Bentham en 1780, c'est-à-dire un système de surveillance. Elle établit son système de surveillance par tous ces journaux compte-rendus qu'elle ordonne, qu'elle lit, qu'elle fait lire, etc. Pour reparcourir le voyage de Spa, nous disposons donc précisément des extraits de son propre journal, qui n'était pas destiné à être publié, mais qui paraît en 1791, soit 4 ans après le voyage à Spa, dans les leçons d'une gouvernante à ses élèves. Cet écrit est dominé par le souci de se justifier après la brouille avec la duchesse d'Orléans qui a fini par éclater et la démission de Madame de Genlis. Notons qu'elle introduit la partie consacrée aux extraits de voyage dans les leçons d'une gouvernante à ses élèves par l'avertissement suivant. J'ai fait avec mes élèves plusieurs voyages. Pendant ce temps, je suspendais le journal d'éducation afin d'écrire le journal du voyage. Je vais donner quelques fragments de ces journaux dont mes élèves ont des copies. Mon intention n'est pas d'offrir des relations complètes des choses intéressantes que nous avons vues, parce que je compte placer ailleurs, avec ordre, ces détails. Mais je veux donner une idée de la manière dont je m'y prenais pour former le goût de mes élèves relativement aux arts. Le deuxième document dont nous disposons pour reparcourir le voyage à Spa est le journal de Louis-Philippe qu'elle lui a fait tenir, il avait 14 ans, et qui fait là ses premières armes en littérature. Comme elle l'écrit dans son roman d'éducation Adèle et Théodore, l'occasion d'un journal réunit en effet les conditions idéales pour apprendre à l'élève à bien faire un journal, à n'écrire que ce qui doit être retenu, en un mot, à voyager avec fruit. Et le cas n'est pas isolé d'ailleurs de ces adolescents qui font leurs premières armes littéraires lors d'un voyage. Le manuscrit du journal de Louis-Philippe est conservé aux Archives nationales de Paris et je suis en train d'en faire l'édition critique pour les Classiques Garnier. C'est un petit volume de 46 pages manuscrit. Vient enfin, outre ces deux journaux, celui du sous-gouverneur Charles Lebrun. Depuis son entrée en fonction, ce dernier avait été chargé par Madame de Genlis de rédiger minute après minute un compte-rendu de toutes les actions de ses élèves. Et ce journal devait lui revenir tous les soirs et elle y mettait annotations diverses. Cette relation a été tenue fidèlement jusqu'en 1791. Ce journal sert en quelque sorte de cahier de liaison, la page de droite étant laissée libre pour les observations de Madame de Genlis, à qui, comme je le disais, il remet son compte-rendu chaque soir. Quelques extraits de ce journal ont été, de manière extravagante, publiés dans les leçons d'une gouvernante à ses élèves, mais surtout, le manuscrit de 3 volumes de ce journal encore très peu connu, couvrant les années 1785, 1787 et 1788, est conservé aux archives du château de Chantilly et le voyage à Spa est entièrement couvert par Lebrun. On peut enfin croiser cette triple écriture journalistique, commandée par la pédagogie, avec les mémoires postérieures de Louis-Philippe ou de Madame de Genlis elle-même. Madame de Genlis ayant écrit ses mémoires inédites sur le XVIIIe siècle et la Révolution française en 1825, vous voyez l'écart par rapport à 1787, alors qu'elle a près de 80 ans, et celle que Louis-Philippe, adulte, commence à rédiger sous l'Empire. Alors mon point pour revoir ce voyage, c'est deux types d'écriture. C'est l'écriture diaristique, l'écriture au jour le jour, et les mémoires postérieures, et de voir ce que dans l'une et dans l'autre, on retient. Alors comment le voyage a-t-il été pensé? En décembre 1786, Madame de Genlis est très affectée par la mort en couches de sa fille aînée, Caroline de Laoustine, qui est à son tour devenue dame de compagnie de la duchesse d'Orléans. Les médecins lui conseillent d'aller prendre les eaux de Spa, mais elle refuse de quitter ses élèves. Pour l'y décider, dit-elle dans ses mémoires, le duc et la duchesse proposent de l'y accompagner. Elle était vraiment quelqu'un de très important. Selon Louis-Philippe adulte, elle les persuade pour il ne sait quelle raison. Il ne sait pas trop pourquoi. La nouvelle de la venue du duc et de la duchesse d'Orléans, en tout cas, est accueillie avec une satisfaction évidente par la population spadoise. Les magistrats du bourg, informés dès l'ouverture de la saison, s'empressent de donner avis de l'événement aux feuilles publiques. On en trouve l'annonce dans aussi bien la Gazette de Liège que le Journal Général de l'Europe. Madame de Genlis quitte Paris au début juillet avec les 4 enfants, donc Chartres, Orléans, Montpensier, Beaujolais, qui ont entre 8 et 14 ans, avec sa nièce Henriette de Cercé, qui a 17 ans, et sa fille adoptive Pamela, qui en a 14. Une carte du déplacement a été réalisée avant le départ par un certain Jacques Hainaut, que je n'ai pas encore pu identifier. Si quelqu'un a des lumières, je suis preneuse. Et cette carte a été exposée en 1974 aux Archives nationales, lors d'une exposition sur Louis-Philippe, quand tous les papiers de la maison d'Orléans ont été versés aux archives. Donc cette carte existe, mais malheureusement, faisant partie d'archives privées, elle y est retournée et l'appel est lancé. Deux hommes attachés à l'éducation du pensionnat de Bellechasse accompagnent le petit groupe, le peintre Sylvestre David Miris et le médecin Conad. L'escorte est donc franchement minimale. Et Louis-Philippe adulte note l'incongruité de cet accompagnement. Je cite, « qui paraissait un choix singulier pour traverser des grandes villes de garnison et tous les Pays-Bas. » Le 8 juillet, lors d'une escale à Péronne, Madame de Genlis note dans son journal, je cite, « nous couchons à la poste. Mes élèves sont contents de tout et fort gais. Ils désirent beaucoup trouver une occasion favorable qui les oblige à coucher sur la paille. » Louis-Philippe, adolescent, reprend mot pour mot les mêmes impressions. Je cite, « nous couchons à la poste, détestable auberge. Nous sommes contents de tout. Nous désirons beaucoup trouver une occasion favorable qui nous oblige à coucher sur la paille. » Dès le départ, donc, on voit que son écriture se modèle sur celle de la gouvernante. Aucune sollicitation n'est faite à une écriture personnelle. Il n'est pas du tout question d'une écriture de soi. Mais tous les épisodes du voyage ne se calquent pas de la même manière d'une écriture à l'autre. L'étape suivante, pourtant très significative, n'est relatée que dans les deux journaux de Louis-Philippe, enfin son journal et puis ses mémoires adultes. Elle est liée à la seconde raison de ce voyage à Spa, qui est politique et qui tient aux ambitions brabançonnes du duc d'Orléans, comme l'explique le biographe du futur roi Guy Antonetti. La comparaison des mémoires et des journaux permet d'aller plus loin dans l'importance du rôle qu'a tenu Madame de Genlis dans ces événements. Elle était en fait un personnage absolument pivot et central. Le silence qu'elle-même observe à leurs propos est tout à fait significatif. Pour dire trois mots du contexte politique, depuis la fin 1786, les Pays-Bas autrichiens et les Provinces-Unies connaissaient une grande agitation politique. Le roi de Prusse menaçait d'intervenir, ce qui était perçu comme une provocation par l'armée française. La France à ce moment-là avait beaucoup de difficultés intérieures, notamment avec les parlements, et devant le manque de détermination de la France à intervenir, le père de Louis-Philippe croyait en une opportunité à saisir pour la maison d'Orléans. Mais si campagne il faut que son fils en fasse partie. Pour cela, il est très urgent de faire connaître au jeune duc, sans avoir à alerter le palais royal, le régiment de chartes infanterie dont il est colonel propriétaire, qui est stationné à Givet, pas loin de Spa, et dont le gouvernement dépend de Lille. Le voyage à Spa est donc un excellent prétexte. La présentation militaire, cette première étape importante dans la vie du jeune duc, se fait comme par hasard. Mais il s'agit bien d'une machination et son caractère hâtif en est la preuve. De Valenciennes, la petite troupe fait un crochet imprévu par l'île, et c'est là que j'aimerais beaucoup retrouver la carte du tracé, motivée, dit Louis-Philippe adulte, par la seule curiosité de la comtesse. Une fois sur place, le jeune duc ne peut manquer de recevoir les honneurs militaires. Mais comment faire face à cette situation en la seule compagnie de Madame le gouverneur, du professeur de peinture et du médecin ? Il y a de quoi se rendre ridicule, ce qu'il note dans ses mémoires adultes. L'arrivée providentielle du marquis Ducrest, frère de Madame de Genlis, et surtout chancelier du duc d'Orléans, enfin j'enlève le surtout parce que les deux sont importants, les tire de ce mauvais pas qui les avait mis en passe d'être très ridicules. Louis-Philippe est prêt désormais, ayant fait sa présentation militaire, si la situation l'exige, à entrer dans une campagne qui peut se déclencher à tout moment. Madame de Genlis ne parle pas de cet épisode trop officieux dans ses mémoires, mais elle laisse à son jeune élève le soin de relater avec ingénuité l'étape lilloise et ses premiers honneurs militaires. Après être tournés à Valenciennes, les voyageurs repartent pour Spa, traversant aussi vite et aussi rapidement que possible des régions enfiévrées par l'agitation politique. À Tirlemont, le 12 juillet, le jeune duc note comme avec regret « Nous avons vu tout le monde avec des cocardes de rubans noirs, jaunes et rouges. On ne nous en a point offert. Nous n'en avons pas pris. » Dans son journal d'adulte, il reprend cette vision du peuple portant des cocardes, ému, selon ses propres mots, par l'ensemble d'un spectacle très propre à mûrir pour la Révolution des têtes qui y étaient déjà fort disposées. Ils arrivent à Spa le 13 juillet, où les attend le sous-gouverneur Lebrun, qui est accompagné des différents maîtres d'études. Le petit groupe s'installe à l'hôtel de Bellevue, au 23 de la rue Marteau, devenue avenue Reine Astrid. Voilà un plan de Spa. C'est un plan qui a été établi par Caro en 1780. Et c'est un plan qui était tout à fait destiné aux curistes, puisqu'on voit l'ensemble de tous les hôtels et maisons qui accueillaient les différents curistes. Quand on voit la petitesse de la ville, on se rend compte que, en saison, l'ensemble des habitations à peu près servait de résidence aux différents curistes. Alors en essayant de savoir où se trouvaient les uns et les autres, je dirais que Louis-Philippe, Madame de Genlis et les enfants devaient être un peu plus loin par ici. Ce n'est pas sur la carte. Nous y reviendrons plus loin. En tout cas, l'endroit plaît au jeune duc. Nous sommes très bien logés dans deux grandes maisons réunies sur la chaussée, avec un charmant jardin, plein de fleurs, et qui contient le plus joli pavillon. Il existe aussi une liste des seigneurs et dames ayant séjourné dans la ville d'Eau, qui est publiée chaque année, et qui sert non seulement de faire valoir à la ville de Spa, mais aussi qui sert de bottin mondain pour qui fréquente Spa. Cette liste est publiée par des éditeurs liégeois à partir du milieu du siècle. En 1787, c'est l'éditeur Dauvrin qui en assure l'impression. C'est le 17 juillet, donc avec quelques jours de retard, que la liste note l'arrivée du groupe sous le nom de Joinville, pas sous le nom d'Orléans, qui était utilisé par le duc d'Orléans lors de voyages non officiels. C'est sous ce nom que Madame de Genlis avertit les autres curistes de leur arrivée. Donc voilà tout le groupe de Joinville, Pamela, Monsieur Méris, Méris le peintre, Monsieur Coué qui est un laquais de Monsieur Méris. Louis-Philippe note dans son journal « Comme nous sommes arrivés incognito, mon ami a envoyé de sa part et de la nôtre des cartes de visite à tout le monde sous le nom de Tourville. Il a fait un petit mélange. Mais tout cela a eu un grand succès. » Dès leur arrivée, le prince-évêque, puisque Liège avait à sa tête un prince-évêque, le prince-évêque de Hunsbruck propose, par l'intermédiaire de son commandant militaire, de mettre des sentinelles devant l'hôtel de Bellevue. Quelques semaines plus tôt, en effet, le 29 juin, le salon Levaux, qu'on a appelé aussi le salon des rebelles, qui concurrençait les deux maisons de jeu officielles de la Redoute et du Vauxhall, avait été le théâtre de troubles sérieux et des arrestations avaient eu lieu. Il faut dire qu'à Spa, on ne prend pas seulement les eaux, comme dans toute ville d'eau, on jouait aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de maisons de jeu. Et c'est d'ailleurs à Spa qu'a été tourné le film Barry Lyndon, qui évoque beaucoup de scènes de jeu. Il y avait deux maisons officielles qui étaient validées par le prince-évêque, et une troisième veut ouvrir, et le prince-évêque refuse absolument. Adolescent, Louis-Philippe juge sévèrement ce défi à l'autorité du prince-évêque, qualifiant les fauteurs de troubles de rebelles et de brigands. On ne sait pas encore que l'affaire des Jeux de Spa sera à l'origine de la Révolution liégeoise. Adulte, il ne reprend plus à son compte cette position suggérée, mais dénonce l'immoralité de la position de l'évêque, qui est impliqué dans les maisons de jeu. Madame de Genlis décline l'offre de protection militaire, la situation lui paraît sans danger. Quelques jours après, nous apprenons par cette même liste des seigneurs et dames que c'est son frère qui arrive à Spa, le marquis du Crest, déjà rencontré à Lille avec son fils César, alors âgé de 11 ans. Les Ducrest s'installent à la cour de Vienne, rue de l'Assemblée. Madame de Genlis ne parle pas de cette arrivée dans ses mémoires. Donc je pense que la présence de Ducrest, sa présence lors de la présentation militaire, etc., tout ça c'est très officieux. Louis-Philippe non plus n'en parle pas. Seul Lebrun évoque, dès le 21 juillet, le plaisir qu'ont eu les princes à retrouver leurs camarades d'études de belle chasse qui s'intègrent aussitôt à leurs activités. La duchesse d'Orléans arrive à Spa 2 jours plus tard et descend avec sa maison à l'hôtel des Tuileries, qui était l'une des plus belles et des plus récentes habitations du bourg. Le duc d'Orléans arrive à son tour le 30 juillet avec ses officiers et son écurie de course, également sous le nom de Joinville. Tout le monde est répertorié sous le nom de Joinville. Il prend possession de 2 hôtels, l'hôtel de Luxembourg et la cour de Vienne, où se trouve déjà le marquis du Crest. Plus de 150 personnes forment sa suite. Donc c'est une vraie cour. Il vient en prince rayonnant. Je vais vous parler maintenant de Spa tel que l'évoque Lebrun dans son journal. Donc la vision commandée du sous-gouverneur. Le journal de Lebrun, minutieusement descriptif, est la source essentielle pour connaître le détail de la journée des élèves, en l'occurrence des 3 princes et du jeune Ducrest, parce que les références à la princesse Adélaïde et à Pamela sont tout à fait fortuites. Lebrun est secondé par M. Miris, le peintre qui les a accompagnés, qui a fait le voyage avec eux, par M. Allion, professeur de chimie, et par M. Meck, professeur d'anglais. Les leçons et les exercices reprennent comme à Paris. Les princes sont soumis à un emploi du temps où rien n'est laissé au hasard. Les voyages n'interrompent donc en rien les occupations prescrites, marquant l'esprit de continuité de la pédagogie jancilienne. Chaque fois qu'elle aura à faire un voyage avec les enfants, hélas elle en aura très peu l'occasion, on verra cette même continuité. D'après Lebrun, on voit que les journées sont très précisément rythmées. Lever matinal à 6h30, comme à Paris, ensuite prière, ensuite toilette, pendant laquelle il répète la chronologie de la France, d'Angleterre ou des Arabes. Tout est noté et finement apprécié par Lebrun. La toilette se répète plusieurs fois au cours de la journée, courte ou complète, selon les événements et les sorties. Mais les princes ne prendront pas de bain de tout le séjour. Je cite Louis-Philippe. Il y a à Spa même des bains d'eau commune, mais ils sont sales et affreux et dans toute la ville, on ne saurait trouver une baignoire pour se baigner comme chez soi. Comme à Paris, leur alimentation est des plus frugales, surveillée de près par Madame de Genlis, qui est avec eux assez spartiate, dans tous les domaines d'ailleurs. Le 19 juillet, elle se rend à Theux avec eux, petite bourgade proche de Spa, et Louis-Philippe ne retient de cet épisode que le fait qu'ils ont mangé des glaces. À propos de la cure, les jeunes princes aussi prenaient les eaux, du moins les garçons. Pour les filles, on ne sait pas. Ils débutent la cure le 19 juillet, soit près de 10 jours après leur arrivée. Dès lors, tous les matins, à 7h, à jeun selon l'usage, ils partent à la fontaine du Pouhon, qui est située à 10 minutes de la maison où ils sont installés. Donc ils y vont tous les jours, sauf 2 ou 3 fois, comme on l'apprend par Lebrun, où il pleut trop fort et où l'eau leur est apportée. Louis-Philippe en trouve les eaux piquantes et d'un goût d'encre très fort. Pour ces enfants, la cure est simplement d'ordre tonifiant. Les eaux de cette fontaine étaient réputées pour être celles qui soignaient le spectre le plus large de l'organisme. Il y a 7 sources principales à Spa, et celle du Pouhon était celle qui soignait le spectre le plus large. Ils en prennent 3 verres chaque jour, pris à 15 minutes d'intervalle, ainsi qu'il était recommandé. Entre la prise de chaque verre, ils commencent leurs exercices quotidiens. Qualifiés par Louis-Philippe adulte, de régime physique assez bizarre, mais au résultat, en fin de compte, positif. Par la suite, les historiens jugeront très moderne le choix de Madame de Genlis d'avoir aboli partiellement les exercices traditionnels de l'éducation aristocratique au profit d'une éducation physique basée sur des mouvements de 3 types, musculation, saut et course. À Spa comme à Paris, les enfants courent, course de fond ou course de vitesse, ils sautent en longueur, en hauteur, ils jouent au bar, ils font des armes. Les princes exécutent ces marches et ces sauts avec des souliers à semelles de plomb inventés par Madame de Genlis, d'abord extrêmement minces, puis progressivement de plus en plus épaisses. C'est d'ailleurs à Spa que le jeune frère de Louis-Philippe, Beaujolais, qui à cette époque-là n'a pas encore 8 ans, commence à importer. Ce jour-là, note Lebrun, il a de la peine à courir. Pour ce qu'on appelle aujourd'hui la musculation, les princes portent des poids, en l'occurrence des cruches remplies d'eau. Ces exercices se font à la promenade de 7 heures, ainsi que l'écrit Louis-Philippe adulte. Je cite « Elle nous envoyait de même tous les matins remplir 2 cruches à la fontaine du Pouhon, où se réunissent ceux qui prennent les eaux minérales, et elle nous les faisait rapporter à travers toute la ville à la maison comme l'auraient fait des porteurs d'eau. Cette promenade publique dans les rues en portant des cruches étonnait ceux qui en étaient témoins. Cela se passait heureusement de bonne heure, en sorte que nous rencontrions peu de monde. Comme à Paris, les altitudes et les distances sont constatées avec précision par Lebrun jour par jour. C'est lui qui pèse ce que vont porter les enfants, sous l'œil de Madame de Genlis. Le 20 juillet, il s'inquiète et suggère de diminuer le poids des cruches. Le lendemain, il insiste, et cette fois Madame de Genlis approuve en marge du texte de sa grande écriture, absolument pas soignée, ceci étant aussi une note. L'écriture de Lebrun est fine et soignée, les annotations de Madame de Genlis sont presque sauvages sur la page de gauche. Le 1er août, elle réclame de son impérieuse écriture que soient ajoutés d'autres exercices dont les élèves sont familiers à Paris. Elle veut qu'ils portent des haltères et qu'ils grimpent aux arbres. Rien ne peut déroger au temps des exercices. S'il pleut, les princes jouent au volant à l'intérieur de leur grande maison. Les deux aînés pratiquent régulièrement l'équitation et font de grands progrès pendant leur séjour. Ces exercices alternent pendant toute la matinée avec les différentes classes jusqu'à 14 heures, par période de 45 minutes. La première est celle d'écriture, qui a lieu de 9h45 jusqu'à 10h30. Je m'attarderai un peu sur celle-là parce que c'est pendant cette heure d'écriture que Louis-Philippe rédige son journal, ce qui est rapporté par Lebrun. Il est explicite qu'il le rédige ou le recopie sous le regard de Madame de Genlis et qu'il s'inspire du modèle et des notes qu'elle lui propose. Viennent ensuite les autres leçons de grec, de langue vivante, d'anglais, d'allemand. Il y a débat parfois entre Lebrun et Madame de Genlis, mais je passe. La matinée se termine avec le cours de peinture qu'ils prennent sous la conduite de Myris. Ce cours, appelé Académie, est le seul qui soit pris avec les jeunes filles, la princesse Adélaïde et Pamela. Elles ne sont jamais citées dans les autres cours. Aucun indice de lecture proposé aux élèves, dans le journal de Lebrun. Les journées, il faut le dire, sont très remplies et la lecture n'est en général pas encouragée pour les curistes, c'est une particularité des villes d'eau, au bénéfice des exercices de plein air. Les princes retrouvent Madame de Genlis à 14 heures pour le déjeuner et restent avec elle jusqu'au moment du souper qui a lieu vers 21 heures où ils sont rejoints par Lebrun. Les après-midi des princes échappent donc au journal minutieux du sous-gouverneur qui ne le reprend que le soir à partir du moment du souper. Le relais est pris par Louis-Philippe, c'est là qu'il commence, lui, à écrire. Dans son journal tout neuf, il ne s'arrête pas aux minuties matinales des exercices et des leçons. Ce qu'il est engagé à retenir, c'est justement tout ce qui en sort. Le temps passé avec Madame de Genlis, les promenades, les sorties à la Redoute et au Vauxhall, ou à la salle des Révoltés, salle Levaux, où ils vont souvent pour le déjeuner ou le souper. Ils assistent à la comédie, ils vont au bal. C'est une occasion d'exercer leur aisance et leur maintien. Louis-Philippe note à plusieurs reprises après avoir dansé « Mon amie a été contente de nous ». Lebrun aussi le note « Madame la marquise a été contente des princes au bal ». Ils ne sont pas tenus à l'écart des pratiques de jeu. Louis-Philippe décrit à un moment donné ce qu'on appelle justement l'enfer, c'est-à-dire une partie de crêpes au Vauxhall. J'ai oublié une citation où il décrit les joueurs. Il y a une histoire de chapeau où on jette avec le chapeau sa partie et tout le monde a l'air absolument... Enfin, c'est l'enfer. Un jour, Lebrun fait part de son inquiétude à Madame de Genlis à la suite d'une sortie de 2 heures passée à la Redoute. « On a causé jeu et je vois avec peine le plaisir extrême que fait le gain, principalement à Monsieur le duc de Montpensier. Madame la marquise aura pu s'en apercevoir. » Louis-Philippe est parfois emmené par son père. Le 2 août, il l'accompagne aux courses où le duc fait courir ses chevaux, selon la pratique importée depuis peu d'Angleterre et à laquelle il a grandement contribué. L'adolescent à cheval à côté de son père est ravi. Le cheval, il l'appelle un escalin, l'escalin étant une pièce de monnaie de la région liégeoise, et le cheval était loué pour un escalin, donc il a fait une sortie en escalin. Le 6 août, Louis-Philippe et son père vont ensemble au club anglais de Spa, qui recrutait ses membres, uniquement masculins, parmi les curistes distingués. Il écrit « J'ai fait mon premier dîner d'hommes à ce club, on a été contents de moi ». Madame de Genlis ne manque pas de faire faire au prince des visites instructives, comme les forges à Spa ou la manufacture de draps de Verviers, décrites dans le journal de l'adolescent. La duchesse, leur mère, les accompagne à plusieurs reprises lors de sorties qui les mènent aux endroits classiques où allaient les curistes de Spa, c'est-à-dire aux grottes de Remouchamp, aux cascades de Caux ou à Chaudfontaine. Lors de cette dernière sortie qu'ils font avec une assemblée de 40 personnes, Louis-Philippe est particulièrement heureux et décrit une après-midi particulièrement réussie. Le temps est radieux, on dîne sous des tentes ornées de fleurs, visite des fontaines, promenade en bateau couvert et orné de feuillages sur la Vestre, suivie par un bateau de musique. La musique, en effet, accompagnait la vie des curistes, ici jusque dans la rivière. Une autre sortie n'est relatée que dans les mémoires tardives de Madame de Genlis. Elle montre un Louis-Philippe acquis avant l'heure aux idées qui vont bientôt triompher. L'épisode a lieu à Franchimont, où on leur montre avec un beau point de vue l'ancien château où étaient renfermés les détenus pour dettes. Elle fait écrire au duc de Chartres « Tant qu'il y aura des prisonniers derrière ces murailles, ce paysage sera bien triste malgré sa beauté. » Le jeune homme, et l'on croit lire ici le récit d'une belle histoire édifiante comme les aime Madame de Genlis, propose alors d'ouvrir une souscription qui est rapidement couverte grâce à son initiative et les prisonniers ne tardent pas à retrouver la liberté. La prison pour dettes, à laquelle avait été condamné le propre père de Madame de Genlis, épisode familial très douloureux, ne sera aboli en France que sous le Second Empire. Je vais vous dire maintenant quelques mots du spa de Madame de Genlis. Ce qu'elle en dit, non pas dans les leçons d'une gouvernante, mais dans ses propres mémoires qui paraissent près de 30 ans après les faits. Cette fois, débarrassée des contraintes du journal d'éducation, elle organise son récit autour de ses propres relations mondaines, qui sont aussi celles de la duchesse. Elle retrouve son amie la comtesse Potocka et son fils Jean, futur auteur du manuscrit de Saragosse, qu'elle appelle mon chat. Quelle familiarité! Elle retrouve la comtesse de Ruy, dame de la duchesse d'Orléans, une espagnole, la comtesse de Rechteren, mariée à l'ambassadeur de Hollande, à Madrid et qui aurait pu être son père. Elle rencontre la princesse Joseph de Monaco, l'abbé Delis de l'Académie française et le duc de Liancourt, le philanthrope, qu'elle voit tous les jours. Spa était vraiment très bien fréquenté. Elle revoit aussi monsieur de Chastellux. Elle se rapproche de Miss Plunkett, charmante irlandaise qui ravit la duchesse d'Orléans et dont le chevalier de Chastellux devient amoureux. Spa est aussi le lieu d'intrigues amoureuses. Dans la foulée de cet été 1787, Madame de Genlis contribuera à favoriser leur mariage. Elle convaincra aussi le duc d'Orléans de donner à la future marquise de Chastellux la place de dame de compagnie de la duchesse d'Orléans qu'occupait sa fille récemment décédée. Madame de Chastellux ne tardera pas à devenir l'amie intime de la duchesse d'Orléans et à lui révéler ce que tout le monde, sauf elle, savait au palais royal, à savoir la relation privilégiée du duc de Chartres et de Madame de Genlis. Cette dernière mêle donc allusivement les temporalités dans ses mémoires, triant les faits à la faveur des événements postérieurs de sa vie et se mettant, comme toujours, très notablement en avant. C'est ce qu'elle ne manque pas de faire non plus lorsqu'elle revisite le séjour à Spa à la lumière de sa carrière littéraire. Un jour, par exemple, dans ses mémoires à elle, les dates sont rares, elle évoque le plaisir de revoir la jolie Jeannette, désormais mariée. Jeannette, c'est l'une des protagonistes de la petite comédie en un acte, intitulée « L'aveugle de Spa », qui lui avait été inspirée lors de son précédent voyage de 1775 à partir de personnages réels et qu'elle avait inséré dans son célèbre théâtre d'éducation à l'usage des jeunes personnes, qui était paru en 1779. Lors de son séjour à Spa en 1780, note Madame de Genlis dans ses mémoires, le roi Gustave III avait contribué à marier et doter Jeannette, fille de la vertueuse Madame Aglebert. Madame de Genlis appuie l'hommage indirect du roi de Suède en rappelant qu'il a aussi fait traduire en suédois une autre de ses petites pièces, La Curieuse. À Spa, elle retrouve aussi le comte Nicolas Romansoff, écrivain et diplomate, ministre de Sa Majesté l'impératrice de toutes les Russies. Il fait partie de l'excursion dans les grottes de Remouchamp qui donne trente frayeurs à Madame de Genlis et lui inspire le canevas du Chevalier des Cygnes, roman qu'elle finira plus tard en émigration. Elle le dédiera, comme promis, au comte de Romansoff. Cet ouvrage, ne manque-t-elle pas d'écrire dans ses mémoires, aura un grand succès à la cour de Russie, à la cour de l'impératrice Catherine. Lors de son séjour à Spa, d'ailleurs, elle ne manque pas de faire de la publicité pour ses ouvrages. Dans la liste des seigneurs et dames, on trouve toutes sortes de petites annonces extrêmement intéressantes pour des chevaux, des choses, les journaux des pays étrangers, peu de livres effectivement, puisqu'à Spa on ne lisait pas beaucoup. Mais en tout cas, parmi d'autres annonces, on trouve un encart signalant ses œuvres complètes en vente chez Dovrin. Elle ne perd jamais le nord. Dans ses mémoires, elle parle peu du temps qu'elle passe avec ses élèves, sauf lorsqu'elle s'attarde longuement sur la fort belle fête qu'elle leur fait donner en l'honneur de leur mère à la fin du séjour. Cette fête sera le point d'orgue de la saison spadoise de 1787. Deux mots sur la fête. La duchesse d'Orléans, après 2 semaines de cure à la fontaine de la Sauvenière, se sent beaucoup mieux. Elle a surmonté l'état de grande faiblesse dans lequel elle était arrivée, comme le constate son médecin, le médecin qu'elle avait amené avec elle. Madame de Genlis pense alors à marquer les bienfaits de cette cure par une fête à la Sauvenière dont elle imagine le plan et dont elle trace elle-même les détails. Le gouverneur de Spa, M. Robert, lui accorde bientôt la permission de travailler dans le bois de la Sauvenière qui appartient au prince-évêque. La ville ne peut en effet que retirer une publicité durable d'une telle initiative. Et ça se faisait d'ailleurs beaucoup. Pierre le Grand, quelques années auparavant, avait laissé une plaque pour marquer sa reconnaissance. Enfin, la ville de Spa, cette toute petite ville, est très intéressante pour toutes ces marques qui à la fois font la publicité de la ville et de ceux qui prennent cette initiative. Myris dirige les ouvriers qui préparent la fête. Madame de Genlis veut y impliquer ses élèves et leur fait part du projet. Pendant 3 semaines, ils participeront chaque matin à la réalisation des travaux. Par Lebrun, nous apprenons que le rythme de travail est plutôt modéré, plus ou moins actif selon les jours. Ils y vont tôt matin, c'est vrai, et y restent 1 heure ou plus. Dans ses mémoires, et là on peut situer l'écart, Madame de Genlis écrit « Les enfants ont travaillé avec la plus grande activité, surtout Monsieur de Chartres et ses frères, qui avaient plus de force que Mademoiselle. Comme ils voulaient surprendre Madame la Duchesse, ils travaillaient en secret, se levaient à 5 heures du matin, faisaient 2 lieues pour se rendre à ce bois et travaillaient sans relâche pendant 3 heures, ce qui a duré 3 semaines. » On voit par Lebrun qu'il y a exagération manifeste. Le jour de la fête est fixé à l'après-midi du lundi 27 août, avec cette crainte que la pluie ne l'empêche, mais tout va bien. Elle est entièrement organisée autour d'un tableau vivant où la duchesse, conduite par Madame de Genlis, découvre les enfants entourant un autel dessiné par Myris, placé sur un tertre de gazon, avec au-dessus cette dédicace à la reconnaissance, qui est bien dans l'esprit du XVIIIe siècle. Les eaux de la Sauvenière ayant rétabli la santé de Madame la Duchesse d'Orléans, ses enfants ont voulu embellir les environs de cette fontaine, ils ont eux-mêmes tracé les routes, enlevé les pierres, planté les fleurs et les arbustes, et ils ont défriché ce bois avec plus d'ardeur et d'assiduité que les ouvriers qui travaillaient sous leurs ordres. Au bas de cela, un chiffre composé des lettres OCMB que Louis-Philippe, avec son stylet, est en train de tracer, c'est-à-dire Orléans, Chartres, Montpensier, Beaujolais. Madame de Genlis, dans cette fête, fait intervenir beaucoup de figurants, les plus jolies dames de Spa, mais aussi pléthore de bergers et de bergères, au milieu de troupes de vaches et de moutons, ces derniers savonnés et blancs comme neige. La relation détaillée de cette fête champêtre, typiquement rousseauiste, figure dans ses leçons d'une gouvernante de 1791. Madame de Genlis la reprend également dans ses mémoires, où elle tient la plus grande partie des pages consacrées à ce voyage. Il faut dire que là, elle frappait un grand coup. Autant que sa valeur d'éducatrice, elle mettait en avant ses talents si bien connus d'organisatrice des plaisirs et rendait un hommage à la famille d'Orléans. Le duc de Chartres, dans son propre journal d'adolescent, donne une relation de la fête quasi identique, encore plus longue et fleurie, allant jusque dans ces petits détails que Madame de Genlis le laisse complaisamment compléter. Lebrun n'a pas assisté aux festivités, Madame la marquise ne m'ayant pas fait dire de les accompagner, comme il l'écrit avec un certain dépit. Dommage. Tous les arts semblent conviés pour participer à l'événement. Myris est chargé de le représenter. Il exécute une gouache ronde qui est actuellement conservée dans une collection privée des environs de Bruxelles et que j'essaye de retrouver. Le musée Condé de Chantilly possède une reproduction en peinture à l'huile de cette gouache qui est réalisée par Victor Amédée Faure à la demande de la famille d'Orléans sous la monarchie de Juillet. Elle est, semble-t-il, absolument semblable à celle de Myris de 1787. on peut y reconnaître les personnages suivants, de gauche à droite. La comtesse de Rilly, Julie Potocka, Miss Plunkett, future madame de Chastellux, la comtesse de Genlis et, avec le chapeau blanc, la duchesse d'Orléans. Ensuite, les enfants, le duc de Montpensier, mademoiselle Adélaïde, le petit comte de Beaujolais, Louis-Philippe, puis mademoiselle Pamela, Henriette de Cercé et le petit César Ducrest. Du point de vue musical, nous avons un seul indice concret qui nous est donné par Louis-Philippe, relatif non pas au répertoire choisi par l'orchestre du Vauxhall présent au début de la fête, comme on l'apprend par madame de Genlis, mais à une chanson interprétée par une figurante déguisée en bergère, dont les vers semblent familiers aux jeunes diaristes. Ces vers, c'est « De mon berger volage, j'entends le flageolet ». J'ai été curieuse de retrouver d'où ils venaient, et ils font en fait partie d'une pièce intitulée « La rose et le bouton », publiée en 1783 dans le théâtre d'amour d'Alexandre Robineau, qui à l'époque était joué à Versailles et qui était très applaudi. Cette chanson a été retrouvée dans un ensemble de chansons du XVIIIe siècle qui a été recueillie par une noble allemande. C'est au beau milieu de toutes ces réjouissances qu'on apprend l'exil du Parlement de Paris à Troyes, survenu le 15 août. Louis-Philippe écrit « L'expédition de Hollande fut abandonnée et les murmures devinrent très forts à Spa où tout le monde manifestait son mécontentement. Cela veut dire que la maison d'Orléans regrettait l'occasion, entrevue et perdue, d'une intervention aux Pays-Bas où elle aurait pu jouer les protagonistes. Donc il ne reste plus qu'à partir. C'est le moment de faire les dernières bonnes œuvres et de se procurer de petits souvenirs. Les princes achètent avec leur argent des boîtes. À Spa, on les appelle les jolités. Les jolités de Spa, c'est une spécialité. Et des vues des fontaines. Lebrun veille aussi à demander à madame de Genlis ce qu'il convient de donner aux propriétaires des eaux du Pouhon, aux filles qui servent et aux garçons apothicaires qui a donné tous les jours du pain de seigle après les eaux. Madame de Genlis n'a donné aucun renseignement sur sa propre cure dans son journal d'éducation ni dans ses mémoires. C'est pas le point. Mais par contre, dans une lettre à son ami Bernardin de Saint-Pierre, écrite en janvier 1788, on apprend que les eaux de Spa ont entièrement rétabli ma santé et je suis persuadée qu'elles vous feraient le plus grand bien et c'est pas un long voyage. Le 1er septembre, les princes, accompagnés de leurs parents et de Madame de Genlis, quittent Spa pour Givet. Lebrun ne fait pas partie du voyage de retour, il retourne directement à Paris et donc le journal de Lebrun s'arrête. À Givet, le duc présente officiellement son fils aîné au régiment de Chartres Infanterie. Là, c'est officiel. Et c'est le beau-fils de Madame de Genlis, le colonel en second, Monsieur de Valence, qui en fait les honneurs. Cette fois, l'épisode peut être repris dans les mémoires de Madame de Genlis, aussi bien que dans celles de Louis-Philippe. De Givet, les voyageurs font une course à Anzin, puis à Rocroi, avant de rejoindre le château de Sillery où les attendait le mari de Madame de Genlis. Après une semaine de fêtes données par les Genlis-Sillery, ils reprennent le chemin de Paris où ils arrivent le 16 septembre, jour où s'arrête le journal de l'adolescent. En conclusion, on peut dire que ces différents textes, journaux d'éducation d'une part, mémoire de l'autre, s'emboîtent et se complètent, permettant de faire un récit à plusieurs voix du voyage. Ils mettent tour à tour l'accent sur le détail des journées lors de cette brillante saison, sur les implications politiques du voyage, sur le détail de l'éducation et sur l'omniprésence du réseau gencilien sur la scène orléaniste. Cette lecture croisée éclaire les contraintes d'écriture propres à chacune de ces relations et la signification de ce qui est retenu ou pas, dans ce voyage qui reste unique dans l'histoire des jeunes princes d'Orléans et comme emblématique d'une mémoire heureuse, peu de temps avant la Révolution, peu de temps avant les grands drames politiques, familiaux et autres. Louis-Philippe adulte sélectionne et revisite les événements importants de sa jeunesse selon la logique de son parcours politique. Ce que Madame de Genlis elle-même choisit de dire, de taire ou de mettre en exergue dans ses mémoires plus de 25 ans plus tard, apparaît avec clarté à la mémoire des autres écrits qu'elle a autrefois dirigés. N'empêche, sa mémoire est honorée dans la ville d'Eau ardennaise. Au fond de la promenade se trouve aujourd'hui un monument érigé en 1900 en l'honneur des créateurs des promenades de Spa et son nom y figure en bonne place. Et si l'on va en sens inverse, vers la fontaine de la Sauvenière, on peut emprunter la promenade d'Orléans, là où se trouve toujours le mémorial qui marque la saison de 1787, autant qu'il honore la mémoire de la famille d'Orléans et les qualités de l'étonnant gouverneur qu'elle avait choisi pour ses enfants. Je vous remercie. Un colloque a eu lieu à Spa en septembre dernier sur le thermalisme au XVIIIe siècle. Et c'est à cette occasion que j'ai commencé à travailler sur le voyage de Madame de Genlis. J'y suis retournée et c'est une petite ville très très étonnante qui maintenant évidemment a perdu absolument le lustre du XVIIIe siècle. Mais où on retrouve encore toutes ces notes et ces vestiges et c'est très émouvant. Et c'est toujours une ville d'eau.
Ce que vous appelez les promenades, c'est les promenades arborées.
Oui, c'est ça. C'est comme les curistes devaient prendre l'air, que c'était bien pour leur santé. C'était des promenades arborées. Il y avait la promenade de 7 heures qui se faisait à 7 heures, la promenade de 4 heures qui se faisait à 4 heures. Il y avait aussi la promenade du jardin des Récollets. Les Récollets n'étant pas supposés ouvrir leur jardin, mais comme les curistes leur donnaient beaucoup d'argent, on avait fait une exception.
Quel âge avait Louis-Philippe à cette date-là ?
14 ans.
14 ans. Je voulais savoir si la technique du journal, justement, était antérieure ou si c'est Madame de Genlis qui initie vraiment un style particulier.
La technique du journal, surtout la technique de la relation de voyage, ne date pas de Madame de Genlis. C'était vraiment un exercice codifié qui servait à établir un document qui serait lu dans les familles. Donc que les jeunes voyageurs des familles aisées, on leur apprenait à faire un journal de voyage. Mais la particularité de Madame de Genlis, c'est d'avoir fait faire divers journaux et d'avoir établi cette espèce de panoptique de journaux. Et ça, c'est une pratique pédagogique qu'on retrouve à cette époque-là en Allemagne, mais évidemment pour laquelle il faut une situation qui peut être la sienne, c'est-à-dire d'éducatrice princière. Mais cet usage des journaux, qu'elle développe énormément dans Adèle et Théodore, dans les leçons d'une gouvernante, pour elle, il est absolument primordial comme moyen de surveillance.
Le terme que vous avez utilisé de diariste, oui. Ça vient de l'anglais, diary?
Oui. Ce n'est
donc,
pas...
Donc en fait, quand vous diary. Dites que, oui, la notion de journal intime, etc., donc c'est une...
Non,
pourquoi en français on a pris ce terme-là et on n'a pas inventé...
C'est la notion du journal au jour le jour, ce n'est pas la notion du journal intime.
Oui, oui, mais je veux dire, ça vient bien de l'anglais, ça ne vient pas du français.
Oui, vous me posez une question intéressante, j'aime beaucoup les questions de vocabulaire comme ça, et en fait, je l'ai intégré tout à fait naturellement dans mon vocabulaire, à la suite des écrits de Philippe le Jeune, etc.
Moi, je n'ai pas une question, mais enfin, quelque chose qui m'a vraiment sauté aux yeux, je veux dire, c'est cette histoire du journal tenu par le sous-gouverneur, là. Mm-hmm. Je retrouve cet épouvantable cahier journal des pratiques pédagogiques inventé par les écoles normales d'instituteurs qui a perduré jusque récemment. On décrit tout ce qu'on doit faire dans la journée et en face, les commentaires. Et qui est à la fois une pratique pour améliorer la pédagogie de l'enseignant, en somme, enfin, c'est le travail de l'enseignant, mais en même temps, justement, une pratique de surveillance de la hiérarchie. Et alors, je me souviens qu'il y a quelques années, Paris 12, il y a eu une recherche sur Madame de Genlis.
Et je pense que c'est très exceptionnel dans l'histoire de la pédagogie française d'avoir un document pédagogique de cet ordre. Il y avait bien sûr déjà le journal d'Éroard, mais je pense que celui de Madame de Genlis et du sous-gouverneur, il y a eu le sous-gouverneur Bonnard avant Lebrun, Bonnard qu'elle a évincé pour mettre Lebrun, sont des documents très très rares et très particuliers et qui ont dû inspirer des pratiques pédagogiques postérieures. C'est vrai qu'elle a été tout à fait vilipendée, elle était insupportable, elle était tyrannique, mais elle avait des idées comme l'éducation physique qui était assez extraordinaire, elle devait être fascinante et insupportable et des choses sont restées de l'éducation qu'elle a donnée et notamment l'usage de cette surveillance par les journaux. Les trois volumes du journal de Lebrun sont à Chantilly, manuscrits et attendent d'être édités, s'il y a des amateurs. Trois volumes épais.
Pourriez-vous nous préciser ce que voulait dire la surveillance ? Parce que je n'arrive pas bien à entrer dans cette perspective. Un journal, c'est un journal, on relate avec plus ou moins d'ailleurs d'authenticité les faits qui ont été vécus, mais la surveillance, je ne vois pas bien, j'avoue.
Par exemple, pour ce qui est du sous-gouverneur Lebrun, il devait noter jour après jour tout ce que faisaient les élèves, et donc par le sous-gouverneur, elle savait ce que faisaient les élèves.
Ah voilà, c'est un contrôle.
Un contrôle, si vous voulez. Oui. S'il y avait eu des réprimandes, elle devait intervenir, c'est-à-dire de la position où elle était, elle avait le contrôle sur tout. Je parle de l'exercice que doit faire Lebrun comme sous-gouverneur par rapport à sa supérieure. Du côté de Louis-Philippe, c'est une écriture absolument dirigée. Il n'y a rien de personnel. Il apprend à bien écrire. Et c'est très intéressant de voir que l'habitude du journal, il a commencé sous la Révolution. Et puis, il y a ses mémoires qui n'ont été publiées que très très tardivement, qui n'étaient pas destinées à la publication et qui ont été publiées par un comte de Paris, son descendant, dans les années 70, je pense. Donc c'était un journal qu'il faisait par lui-même. Et on peut dire que là, Madame de Genlis a fait semer une graine puisqu'elle a développé le goût de la relation journalière, pour ne pas dire diaristique, ni diariste. Les mémoires sont des événements qui prennent le matériau, que ce soit des notes, à la différence des journaux qui sont rédigés au jour le jour, les mémoires bien postérieures sélectionnent, revisitent, etc. pour faire un portrait dont on sait qu'il va probablement être édité. Louis-Philippe ne le faisait pas dans un but de publication, Madame de Genlis bien. Ses mémoires ont été publiées de son vivant et ont fait un énorme scandale d'ailleurs, ce qu'elle devait adorer parce qu'elle était spécialiste. Donc ce que j'essaye vraiment de faire ici, c'est la différence entre l'écriture au jour le jour et l'écriture postérieure des mémoires.
Que pensait la famille d'Orléans des pratiques pédagogiques de Madame de Genlis ?
Confiance totale. Elle peut faire tout ce qu'elle veut. Elle les élève à la dure. Elle rectifie des attitudes qui ont été jugées un peu molles, un peu chez Louis-Philippe ou chez ses frères et sœurs. Elle a total blanc-seing de la part du duc et de la duchesse. C'était tout à fait dans la ligne du duc d'Orléans lui-même, qui aimait, comme je le disais à un moment donné, faire ce qui n'était jamais fait, qui a fait nommer une femme gouverneur de ses élèves. En fait, c'est très intéressant parce que c'est une véritable expérience pédagogique qu'elle fait, qui n'a rien de classique et qui rompt totalement avec les éducations princières connues.
Et justement, qu'est-ce qu'elle avait comme bagage pour prétendre à être pédagogue ?
Sa propre enfance.
C'était quelqu'un de très doué, qui était très très doué pour la pédagogie. C'était quelqu'un qui était une harpiste virtuose, qui avait fréquenté les salons, qui était devenue dame d'honneur de la duchesse de Chartres, qui dans son enfance n'avait pas reçu une grande éducation, qui est pour beaucoup autodidacte, qui a fait un usage extrêmement intensif des extraits, c'est-à-dire tout ce qu'elle lisait, tout ce qu'elle dévorait, en faisait des extraits. Et bien sûr, elle avait une position sur tout. Elle avait une position contre les philosophes, elle avait une position sur les pratiques pédagogiques, c'était l'époque de Rousseau aussi. Donc tout ce qui était pédagogique à ce moment-là était extrêmement à la mode. Il y avait eu l'expulsion des jésuites, il y avait eu les théories rousseauistes, il y a eu énormément d'essais sur l'éducation à cette époque-là. Et donc tout ce qui pouvait être novateur ou proposé comme nouveau, comme particulier, était bienvenu. Et elle a fait une expérience pédagogique qui se rapprochait de Rousseau, même si elle n'était pas philosophe, pour laquelle il y avait une ouverture à ce moment-là totale. Après la brouille avec la duchesse d'Orléans, il n'était plus question de rien du tout. Mais en fait, Adélaïde a eu une telle dépression. La révolution avait eu lieu, il fallait partir. Elle est partie avec la petite fille. Toutes ces années d'émigration, elle l'a faite avec elle. Elle a sillonné l'Europe en émigration. Les deux frères de Louis-Philippe sont allés en Angleterre et ils sont morts peu après d'ailleurs. D'ailleurs, ce qui est extrêmement surprenant, c'est de voir le nom de toutes ces personnes qui étaient là et les destins tragiques de la plupart d'entre elles. Et elle est revenue d'émigration en 1800. Elle a été bien accueillie par Napoléon. Elle s'est installée à l'Arsenal. Elle a été chargée par Napoléon de faire des rapports, un système de surveillance, son impression. C'était une grande spécialiste. Elle s'est occupée d'instruction aussi à ce moment-là, plus ou moins comme... il n'y avait pas encore d'inspection, mais elle avait un rôle dans le système éducatif napoléonien, pas officiel. Et puis, après Napoléon, elle est retombée sur ses pieds, une fois de plus. Elle a continué à écrire, elle a publié ses mémoires en 1824-25, et elle est morte quelques mois avant que Louis-Philippe accède au trône.
Est-ce qu'il y a eu des relations entre Louis-Philippe et Madame de Genlis après...
Oui, mais dans quelle mesure son propre parcours pouvait-il l'autoriser à avoir des relations officielles avec quelqu'un qui avait été tellement emblématique de son éducation d'Ancien Régime ? Il en parle dans ses écrits. Et par exemple, dans « Choses vues » de Victor Hugo, on parle de la proximité qu'il avait avec Madame de Genlis au temps où elle était son gouverneur. Il parle dans ses mémoires de son appréciation sur l'éducation qu'il a reçue de Madame de Genlis. Alors, est-ce qu'il avait des relations avec elle ? Je pense qu'une saine distance était de bon aloi.
Mais on est à 200 de la Révolution, donc est-ce qu'elle avait quelque part une intuition, enfin par rapport à l'éducation, je sais pas, politique ou...
Non. Enfin, quand on voit le parcours dans ces régions très agitées, quand on voit les cocardes, quand on voit la famille d'Orléans était ouverte aux idées révolutionnaires à ce moment-là, il faut pas l'oublier. Et donc, c'est une éducation aux idées qui ont explosé avec la Révolution. Et donc, est-ce qu'elle avait une intuition? Quand on voit la splendeur de ses fêtes et ce luxe, on ne prévoit pas que la Révolution fera tout sauter 2 ans après.
Est-ce qu'elle est grassement payée?
Il y a des choses là-dessus où elle refuse des émoluments qui auraient fait qu'elle aurait été vraiment payée comme une... Elle fait tout ça extrêmement dignement. Mais l'argent coule à flot, enfin c'est évident, pas le sien, mais... Quand on pense que le duc d'Orléans vient là avec 150 personnes et son écurie, il n'y avait pas trop de problème, quoi. Dans le journal de Louis-Philippe, le petit journal de 46 pages qui est aux archives, les dernières pages sont des pages de comptes. Elle apprenait à Louis-Philippe à tenir ses comptes, et on voit tout ce qu'il achetait.